Bonjour et bienvenue à Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes du monde de l'humour. Et aujourd'hui, on ouvre cet épisode avec une invitée qui va nous faire découvrir le métier de directrice artistique d'un théâtre.
Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes de l'humour. Vous pourrez découvrir les coulisses du monde de l'humour à travers le regard de professionnels du milieu toutes les deux semaines, le jeudi à 18h sur le 93.9 et en podcast sur le site de radiocampusparis.org.
Et aujourd'hui, en première partie, on va recevoir Jessie Varin, directrice artistique de la Nouvelle Scène à Paris. Et en deuxième partie, on reste avec elle pour jouer au jeu du Magritte des Molières. Et bonjour Jessie.
Salut.
Tu es la directrice de la Nouvelle Scène, un théâtre où se produit majoritairement des seuls en scène, souvent humoristiques, mais pas que. Et tu as aussi porté des projets engagés contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle vivant. Avant de parler de ce projet, est-ce qu'on peut revenir sur ton métier et est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours pour en être arrivée à directrice artistique d'un théâtre?
Écoute, le parcours, comme j'imagine beaucoup de métiers dans le culturel, est pas forcément une ligne droite. C'était pas écrit comme ça. Moi, j'ai un parcours universitaire, j'ai une maîtrise de sociologie. Donc, des études qui m'ont absolument passionnée. Ouais, c'est ça vraiment qui a éveillé ma conscience du monde qui nous entoure. Et j'ai toujours su que je voulais travailler dans l'engagement sociétal, dans l'engagement culturel, donc sur des gros événements culturels, avec évidemment un biais un peu social, c'est-à-dire réfléchir à comment apporter la culture au plus grand public. Donc ça, c'était vraiment des axes de réflexion que j'avais et j'ai approfondi ça autour des cultures urbaines parce que j'en étais très cliente, très spectatrice. Et voilà, donc ça a été mes études universitaires. Et puis quand il a fallu un peu élargir le champ des possibles, je suis arrivée à Paris. Et quand on arrive à Paris, on a envie de tout faire, de tout voir. Donc j'ai fait plein de stages, notamment un stage au Festival Paris Cinéma, qui était un super festival à l'époque, sur un autre festival aussi qui s'appelait Africaphonie, c'était sur la date commémorative de l'abolition de l'esclavage et notamment autour des cultures afro-caribéennes. Donc voilà, j'ai fait plein de missions, je crois que je me suis vraiment enrichie de plein de choses pendant mes années et de découvertes et d'études en fait. Et puis à côté de ça, évidemment, serveuse, je t'en parle parce que tu vas voir que la boucle va se rejoindre aussi, donc des années aussi de service après les heures de stage, à travailler dans énormément d'établissements de restauration ou nocturne, tu vois, beaucoup de clubs aussi à l'époque. Et puis il a fallu qu'à un moment donné, je me stabilise un peu. Et à mes 25 ans, je réponds à une petite annonce sur Profil Culture, qui est quand même le site un peu référence, n'est-ce pas, que beaucoup d'entre nous connaissent. Et là, je vois recherche hôtesse polyvalente au théâtre Le Point Virgule. Donc hôtesse polyvalente, autant te dire que ça veut à peu près tout et rien dire. Et puis le théâtre Le Point Virgule, c'était pas une référence que j'avais culturellement, tu vois. À Paris, je sortais énormément. En tant qu'étudiante, tu as plein d'accès dans tous les théâtres un peu de la ville subventionnés. Donc j'étais plutôt dans ces choix-là de théâtre subventionné, de danse contemporaine, de hip-hop, de concert. Mais l'humour, je n'avais pas forcément cette culture. Je l'avais à travers la télé, les années Canal. Je l'avais à travers les gros noms qui étaient en train de sortir. Je pense à Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, les petites annonces d'élite. Et j'arrive au Point Virgule, je fais cet entretien. Un gros producteur de théâtre qui s'appelle Jean-Marc Dumonté venait de racheter le Point Virgule. Et était en train de refaire une petite équipe dynamique autour de ça. Et je suis prise pour être hôtesse polyvalente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait faire l'accueil et la billetterie au théâtre. Mais quand tu fais l'accueil et la billetterie dans un petit théâtre comme le Point Virgule, qui est un théâtre emblématique, là il fête ses 50 ans, tu vois, et c'est un petit théâtre de 100 places où on démarrait beaucoup, beaucoup de talents de l'humour. Bah, tu fais tout en fait, parce que tu es responsable de soirée, tu lances les spectacles, tu donnes le top à l'artiste. Et ça a été une expérience absolument enrichissante pour moi et j'y ai fait mes armes pendant 5 ans. Donc j'ai tout fait en fait là-bas. Donc, j'ai commencé effectivement en tant qu'hôtesse polyvalente et puis rapidement je suis montée dans les bureaux. J'ai fait de la direction commerciale, donc le but il était encore une fois d'aller chercher des publics pour remplir la salle et puis se faire rencontrer l'artiste et le public. J'ai fait de la communication, de la production et puis à ce moment-là Jean-Marc Dumonté rachète un grand théâtre qui s'appelle Le Grand, point virgule. Et là aussi, je crois que ça m'a donné des envies d'indépendance. Et puis pour te reparler après de mon engagement par rapport à ce que j'avais envie de défendre aussi, je me sentais plus tout à fait à l'aise par rapport à ce qui était proposé là-bas. Des artistes, il y en avait évidemment des formidables. Mais voilà, j'étais une jeune femme de 30 ans et je trouvais que je ne me retrouvais plus sur, tu vois, sur des propositions artistiques. Et j'ai fait la folie un soir avec un de mes collaborateurs justement du Point Virgule. On s'est pris à rêver très grand et on a tapé sur Google vraiment acheter un théâtre à Paris pour rire à la base, mais avec une envie aussi quand même, tu vois. Enfin, je sais pas ce qui m'habitait concrètement à l'époque, je ne savais pas, je ne sais plus si je pensais à ça de manière pragmatique. Je pense pas, parce que sinon on serait j'en serais peut-être pas là d'ailleurs aujourd'hui. Mais en tout cas, on avait envie de rêver grand, on avait envie d'indépendance, ça c'est une certitude. Et quand on tape acheter un théâtre à Paris, on trouve cette péniche. Cette péniche qui est à l'abandon depuis 2 ans, qui est dans un site complètement improbable de petites annonces, tu sais, de fonds de commerce, quoi, ouais. De vraiment des trucs. Et puis, on se dit qu'on va pousser la blague à fond. On appelle l'agent immobilier, on rencontre ce petit bonhomme de 70 ans sur le bateau 3 jours plus tard, juste avant d'aller travailler. Et puis on commence à se dire, putain, ça serait beau, quoi. Puisque dans le bateau, il y a en bas la salle de spectacle qui est là. Et puis ça s'est concrétisé très vite, parce que évidemment, les voies classiques de l'entrepreneuriat ne nous ont pas été ouvertes. C'est-à-dire qu'en tant que jeune salarié au SMIC, autant te dire que nous n'avions aucun apport personnel, qu'on avait des parents qui nous ont accompagnés dans ce projet, mais en tout cas qui n'ont pas pu le faire financièrement. On a commencé à aller voir des business angels, des banques, et puis personne ne voulait nous donner, parce qu'un business plan avec un théâtre, c'est pas évident, c'est pas rassurant. Mais on y a cru fort, et puis autour de nous, j'ai demandé à ma meilleure amie si elle pensait pouvoir avoir des gens qu'elle connaissait, qui pourraient... pourquoi pas faire une association, notamment il y avait un espace restauration qui était, tu vois, peut-être un peu plus facile à vendre, à proposer en tout cas. Et puis, chemin faisant, voilà, il y a une personne, et notamment un couple, Stéphane Nomis et Candice Cinquin, qui se disent, bah, nous, ça nous intéresse, on a envie d'un espace restaurant, événementiel, on ne se connaît pas, on se rencontre ce jour-là dans le bateau. Et puis, Stéphane fait un compromis de vente. Et on devient associés du jour au lendemain, sans vraiment se connaître.
Oui.
Avec, je crois, des envies très différentes. Avec un bagage très différent. Je me souviens de cette phrase très virile, mais qui m'a marqué beaucoup. Et qui était virile dans le sens sportif. Stéphane est un ancien sportif de haut niveau dans le judo. Moi, j'ai fait du sport de haut niveau très longtemps dans la gym. Mmh. Et il me dit, genre, t'en as dans le ventre, quoi. Et je crois que, tu vois, je me suis reconnectée un peu à cette espèce de truc de l'effort, de truc. Et je fais, ouais, mais sans savoir. Parce que là
tu
où
tu peux
on...
pas savoir en amont, de
bah,
toute façon.
Et puis, j'avais jamais été directrice d'un théâtre. Mmh. J'avais jamais été directrice artistique. D'un seul coup, tu vois, tu te reconnectes à te se dire, j'ai envie de faire des choses, mais est-ce que ça va plaire? Et puis le syndrome de l'imposteur, voilà, en tant que femme, entrepreneuse. Il y a un truc que je raconte parfois, concrètement. On a signé, s'en est suivi 4 mois de travaux, s'en est suivi une ouverture en juillet 2013. Donc tu vois, on va fêter nos 12 ans là, cet été. S'en est suivi une première année autant extraordinaire que extrêmement douloureuse. Et puis là, je te fais une petite ellipse dans le temps. 10 ans après, on n'est plus que 2 associés, Candice et moi. Moi qui a vraiment toute la direction artistique du théâtre et, on va dire, la direction générale de la communication, de l'image, de la péniche. Et Candice qui a la direction du restaurant et toute la gestion administrative. C'est-à-dire qu'on se retrouve à 2, un espèce de binôme absolument parfait en termes d'équilibre.
Ah, génial.
Elle aime tout ce que je ne sais pas faire. Et elle le fait très bien. Et puis par ailleurs, tu vois, elle va me laisser une liberté totale pour créer un lieu qui aujourd'hui raconte vraiment une histoire et raconte des choses et défend des valeurs. Et juste par rapport à l'entrepreneuriat, parce que, encore une fois, Radio Campus, voilà, ça me reconnecte aussi à mes premières années, à mes longues années d'étudiant. Mais en tant que jeune femme, j'avais, je sais pas, cette espèce de fantasme de se dire que je cherchais comme un espèce de mentor. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
C'est-à-dire que pour me légitimer, j'avais besoin de quelqu'un qui m'apprenne un peu le monde qui m'apprennent un peu la vie. Et cette personne-là, je me l'étais représentée comme un vieil homme blanc, quoi. Enfin, tu vois, je voyais un directeur de théâtre, cheveux grisonnants, qui allait m'ouvrir les portes de ce métier. Ça n'a pas été le cas. J'ai eu plein de gens qui ont facilité ce travail et qui m'ont porté un regard et beaucoup de force et une grande bienveillance. Il n'en reste pas moins que j'ai appris mon travail sur le terrain, quoi.
Voilà. En faisant.
Exactement. Dans l'action, toujours.
Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, c'est quoi un peu tes tâches au jour le jour pour qu'on ait une idée ?
Alors, il y a deux choses. Il y a vraiment directrice du théâtre. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout la partie que je préfère, aller chercher des spectacles. Donc j'ai une grosse partie de mon travail, c'est vraiment de la direction artistique, c'est-à-dire aller chercher les spectacles et les artistes qui vont faire parler d'eux bientôt. Donc c'est miser sur un talent, miser sur une histoire, miser sur un récit, de se dire que avant d'arriver à la nouvelle scène, il faut quand même qu'ils aient un petit bagage. Donc tu vois, moi je vais beaucoup voir les spectacles, je vais beaucoup voir les spectacles dans les petites salles, je vais passer 3 semaines à Avignon et je vois 70 spectacles, je vais aller dans les comédie clubs, je vais repérer les talents. Maintenant aussi, par rapport à un théâtre comme le mien qui est beaucoup sur de l'humour, je fais énormément de veille sur les réseaux sociaux. Donc il y a un espèce de truc de besoin de savoir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui pourrait marcher ? Qu'est-ce que la tendance ? Là où je te disais que mon parcours sociologique, pour moi, a énormément d'importance, c'est que j'essaie de programmer des spectacles qui ont des choses à dire. J'essaie de programmer des spectacles qui sont complètement ancrés dans leur époque. Et puis, il y a ce petit truc, on va essayer d'être un poil avant-gardiste sur des grands sujets. Et on l'a été en toute humilité, mais vraiment, des artistes te le diront. On a fait des paris fous de parler bien avant MeToo de l'intime, des violences sexistes et sexuelles, de la sexualité, de l'intimité. Tu vois, il y avait tout ce volet-là. Là, plus récemment, je pense à un artiste que j'aime beaucoup et dont je suis très fière d'avoir accompagné les débuts de carrière en programmant son spectacle, c'est Lou Trotignon, tu vois, sur la transidentité. Quand tu vois ce qu'on peut recevoir comme haine sur ces sujets-là, et bah, d'aller voir un spectacle qui te réconcilie avec cet intime-là, bah, c'est juste magnifique, en fait. T'as l'impression quand même de prendre soin des gens et de leur dire, enfin, de les rendre un peu plus intelligents et un peu plus empathiques. Et c'est important. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la partie que je préfère. Après, c'est des risques. Tu vois, c'est des risques parce que j'ai pas la recette miracle pour faire en sorte qu'un spectacle va trouver son public. Mais comment faire ça ? Bah ça, c'est l'autre partie, c'est la partie un peu plus technique. Donc moi, je travaille aujourd'hui avec 3 régisseurs son et lumière qui sont vraiment des créateurs son et lumière, donc qui accompagnent toute la création des spectacles de la nouvelle scène. Je travaille avec 2 personnes à la billetterie, donc ça, c'est vraiment de l'accueil billetterie et faire en sorte que les spectacles soient bien en vente sur l'ensemble des sites revendeurs. J'ai découvert un artiste sur les réseaux sociaux et si je tape son nom sur Google, l'idée c'est qu'il soit en vente, bien référencé. Je travaille aussi avec une chargée de communication et là c'est toute la communication sur les réseaux sociaux évidemment, sur le site internet, sur les newsletters, fidéliser notre clientèle. Et puis dans un lieu comme le mien qui est encore plus grand, il y a toute la partie offre de restaurant. J'en parle un peu parce que ça se connecte aussi vachement à ce qu'on fait au théâtre. On a lancé il y a 3 ans, post-Covid, quand la restauration était en pleine crise, l'idée d'une résidence culinaire à la nouvelle scène. Donc en fait, maintenant, à l'instar du théâtre, on invite des chefs à venir pendant 2 mois, avoir une carte blanche totale au restaurant. Ils font une petite carte. Alors, on a juste un petit format. C'est 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, tu vois. Que des produits frais. Ça change tous les mois. Et ça, c'est génial. Donc, tu vois, on a et la résidence, on va dire, artistique en bas et la résidence aussi culinaire en haut. Donc, après, c'est de la gestion d'équipe. C'est beaucoup de management. Et puis, la partie administrative, ça, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est vraiment la partie gestion. Mais mon travail est d'aller chercher des spectacles et faire en sorte que le public ait envie d'aller les voir. Voilà, donc ça passe par plein de choses, plus ou moins connues, et puis des bonnes idées, des collaborations, de la presse. Et puis j'ai une partie aussi que j'aime beaucoup parce que dans une salle de 100 places, t'es aux prémices de quelque chose, d'artistes qui peuvent aller remplir des grandes salles. Je pense à Douli et Laurie Perret parce qu'elles sont à l'Olympia dans quelques semaines, dans quelques mois. Franchement, c'est super beau parce qu'elles ont quand même, tu vois, commencé à la nouvelle scène. Et c'est comment tu vas les accompagner là-dessus, quoi. Et en fait, comment tu vas faciliter des choses. C'est de se dire, putain, je crois que j'ai un spectacle vraiment canon à la nouvelle scène. Hop, maintenant, Ça fait presque 18 ans que je travaille dans ce métier-là. Je peux me permettre d'appeler tel ou tel producteur en disant « Tu vois, je vois ton catalogue, il y a un truc sympa, viens voir ce spectacle-là. » Je peux appeler une journaliste avec qui je m'entends hyper bien et lui dire « Tu vois, sur les sujets que tu traites, viens voir le spectacle, je pense que ça pourrait être super pour une chronique. » Et tout ça, c'est, tu vois, c'est de la mise en relation, c'est un côté facilitateur. Mais par contre, moi, je n'avais pas forcément de velléité de devenir productrice ou de manager ou attachée de presse. L'idée, c'est que je me sens vraiment très très bien à ma place. J'arrive à toucher par ailleurs plein de choses, notamment à travers aussi mes engagements, et c'est trop bien. Et ce que je voulais, ah oui, je rajoute un peu ça, tu m'arrêtes hein, Rosalie, hein, parce que vraiment il y a un comedy club. Je sais que tu es venue hier soir voir un spectacle au comedy club, et bah tu vois, ce comedy club par exemple, il a été créé avant tout parce que je me suis dit bah comment aller un tout petit peu plus en amont et faire venir ces jeunes talents que je vais voir travailler en direct dans cet espace de comedy club, parce que pour moi, ça reste des salles de travail à la base. Donc, c'était de se dire, bah, une fois par semaine, on remplace, en tout cas, on transforme le restaurant en comedy club. Et ça me permettait d'aller encore plus en amont.
Pour avoir en même temps le théâtre plus le restaurant, ça fait déjà énorme. Tu as deux casquettes, déjà énormément de travail.
Oui.
Est-ce que tu... Parce que tu disais que tu fais des résidences culinaires. Est-ce qu'il y a aussi des résidences de création? Pour aller encore plus loin en amont, là je suis encore plus loin, je pense que ça fait beaucoup.
Ouais.
Mais est-ce que tu as déjà pensé à ça, une résidence d'artiste?
Alors, des résidences d'artistes, je pense qu'il me manque, l'accompagnement budgétaire pour ça. Dans le sens où je pense que les résidences. D'ailleurs, on y pense beaucoup parce que le stand-up, dans l'absolu, n'est pas beaucoup accompagné par de l'argent public pour les résidences, tu vois. En revanche, donc les résidences, ça voudrait dire mettre à disposition le lieu pour de la création, je le fais. Je le fais à titre plutôt gracieux, je le fais sur du partenariat. Il nous est arrivé en amont de faire, par exemple, tu vois, des lectures. Donc, des lectures à table. Tu vois, sur table, on est là, on est sur la scène, certes. Et puis, la comédienne va te livrer pour la première fois son texte qu'elle est en train de lire. Après, non, j'ai pas vocation de faire des résidences de création. En revanche, j'ai quand même vu naître beaucoup de projets. Là, dans le récit que je te fais, j'en oublie... le côté excessivement laborieux de ce qu'est gérer une salle, notamment sur des plages horaires qui sont très particulières, très longues, très nocturnes. Les vacances scolaires, je parle des vacances scolaires, je ne parlais pas du tout de vacances scolaires avant. Maintenant que j'ai un enfant, je peux t'assurer que les vacances scolaires, c'est des périodes où on travaille énormément, beaucoup les week-ends. Donc tu vois, c'est des amplitudes horaires... sur la direction de salle qui sont... c'est une énorme charge de travail.
Est-ce que tu dirais que c'est ça le plus gros point négatif? Parce que je pense à nos auditeuristes qui nous écoutent et qui se disent ce métier leur plairait. Et un des meilleurs moyens de se rendre compte si un métier est vraiment fait pour nous, c'est en regardant les points négatifs.
Oui.
Qu'est-ce qui est pour toi la partie la plus embêtante à faire, la plus laborieuse?
Laborieuse, je te dis, c'est vraiment le fait d'être à flux tendu au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument jamais de répit. C'est-à-dire que quand tu finis l'exploitation d'un spectacle, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu aies des coups d'avance. Donc il y a une espèce de truc de spirale qui n'en finit pas et qui est excessivement épuisante. Ensuite, je pense que c'est des métiers où tu n'as pas le choix que d'être vraiment connecté à quelque chose de passionnel. Tu vois, vraiment, ça fait un peu cliché de dire le métier passion, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, ça fait 18 ans que je travaille dans le milieu. Ça fait 12 ans que j'ai mon théâtre. Je me sens... chaque saison est une nouvelle saison. J'ai l'impression que j'ai toujours des étoiles qui brillent dans les yeux quand je vois du succès. Je vois toujours que quand il y a de l'insuccès, on trouve toujours les solutions. J'ai vraiment... si tu veux, j'ai un fauteuil dans la salle de spectacle qui est un peu mon fauteuil. Enfin, et que je te jure que quand je m'assois dedans, après une longue journée où... j'ai pu autant te gérer une annulation et tout un process de remboursement et aussi le fait que le sanibroyeur est tombé en panne. Quand je m'assois là et que je vois les gens rire avec un spectacle, franchement, il y a un truc, c'est vraiment, ça m'habite vraiment très très fort. Après, nos auditoristes se projettent notamment dans une vie familiale. Je vais parler un petit peu de parentalité, mais je crois que moi, c'est ça qui nous a, avec mon conjoint qui est artiste aussi en plus. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est artiste, parce que je crois qu'on se comprend très très bien sur le fait, tu vois, d'avoir des horaires qui... Voilà. Moi, jusqu'à... avant d'avoir un enfant, ne pas rentrer dans les cases, ça m'allait très bien. De travailler tous les soirs du 31, j'étais la plus heureuse du monde. De travailler le soir, tu vois, j'avais vraiment un autre rythme. J'avais aussi choisi ce rythme où je me lève pas à 7h30 du matin, sauf depuis que mon enfant est à l'école. Et ça, tu vois, ouais. ça pique. Donc en fait, c'est des métiers qui restent quand même très atypiques sur les horaires.
On a reçu dans cette émission les directrices de la compagnie Limone, une compagnie de théâtre d'improvisation professionnelle. On a remarqué que le théâtre d'improvisation professionnelle, c'était beaucoup moins développé que le stand-up, par exemple. À la Nouvelle Scène, tu as programmé le spectacle d'improvisation Time depuis 7 ans, je crois. Oui. Mais la programmation de spectacles d'improvisation reste assez minime dans le paysage culturel. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça. Pourquoi le théâtre d'improvisation a du mal à émerger.
En tant que directrice artistique de la Nouvelle Scène, j'adore ce rendez-vous. Les brader, encore une fois, tu vois, j'aime tellement cette troupe. J'aime aussi la proposition d'improvisation. C'est vraiment un moment spécial. Alors nous, on le programme les dimanches parce que on a plus à vocation, effectivement, de programmer du stand-up, des seuls en scène et, tu vois, de l'humour. Donc l'improvisation vient un petit peu en marge de ma programmation et pourtant, c'est vraiment un rendez-vous que je chéris. Qu'est-ce qui fait que l'impro ne répond pas à une envie, un besoin ? Est-ce que c'est peut-être... une image, parce que finalement, le stand-up, quand tu vois ce qui marche en ce moment, c'est toutes les improvisations du comédien sur scène face au public. C'est quand même un travail que... tu vois, de ce que fait les troupes. Je sais pas,
Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de personnes sur scène qui fait que ça devient beaucoup plus cher et donc ça devient moins rentable? Donc peut-être qu'un producteur ou productrice se verrait moins, projette moins là-dedans?
Alors il y a ça, et puis à côté de ça, les troupes de théâtre quand même, ils sont beaucoup plus nombreux au plateau. Je pense que malheureusement, un peu comme l'a été le stand-up longtemps, ça a été un peu le parent pauvre. Franchement, en toute honnêteté, c'est une super question. Je pense que c'est un cheminement qui va peut-être se faire et qui est peut-être en train de se faire, mais ça prend plus de temps en termes d'image, en termes de reconnaissance, tu vois. Encore une fois, je te disais sur le fait que le théâtre, nous a longtemps snobé, nous, les programmateurs d'humour ou même les artistes, alors que là, ça s'est complètement inversé. Hein. Tu vois, tu as tous les théâtres bourgeois, Édouard VII qui accueille de l'humour. Enfin, tu vois, donc la tendance s'est inversée. Je crois qu'il y a un truc aussi, c'était que, notamment par rapport au texte, on a quand même dans notre culture, un petit peu élitiste, un petit peu théâtreuse, une accroche sur le texte qui est très importante. Peut-être que l'impro, malheureusement, est un peu stigmatisée par rapport au fait que finalement, ce texte qui n'est pas vraiment écrit, il y a quelque chose.
Un peu classiste.
Peut-être.
Peut-être.
Tu vois, peut-être un peu un truc comme ça, d'élitiste, un peu. J'ai bon espoir, puisque pour moi, c'est un peu à la croisée des chemins, hein, tu vois, entre le stand-up d'impro qu'on voit énormément dans les comédie-clubs et cet effet de troupe, de théâtre. Je sais pas, c'est vraiment une bonne question.
Mais écoute, on va voir. Je pense que je vais la poser cette question à toutes les personnes qui vont arriver à ce micro. Peut-être que j'aurai une autre réponse. Mm. On va passer à ton engagement face au sexisme dans le monde du théâtre. Alors pour abréger, on va appeler les violences sexistes et sexuelles par l'acronyme VSS, pour aller plus vite. Face au MeToo stand-up, tu as proposé la charte des comedy clubs. Il y a déjà plus de 135 signataires, dont 24 comedy clubs en France.
Ouais.
En quoi ça consiste, cette charte ?
Déjà, MeToo, pour moi, a libéré la parole. Quand cette enquête sur Mediapart est sortie et quand la presse s'en est emparée, moi, j'ai été interrogée parce que j'ai donné énormément la parole aux femmes dans mon parcours de directrice artistique. Et que, je te fais une petite genèse, mais... Et que le Comedy Club de la Nouvelle Scène, il a été créé en réaction, notamment à des femmes artistes qui avaient besoin de créer dans des endroits dans lesquels elles se sentaient en sécurité. Et quand l'affaire MeToo sur le MeToo stand-up est sortie, il fallait qu'on réagisse de manière positive en disant, alors attends, nous le stand-up ça existe depuis 10 ans, à l'image malheureusement de notre société, évidemment qu'il y a des violences des VSS, mais on va répondre de manière positive en disant qu'on est tous concernés par le sujet, que là il y a une grosse enquête et il y a un gros comédien qui est en train de tomber, mais on va pas laisser place à ça dans nos lieux de création. Donc pour ça, l'idée il a été d'amonter une charte, d'écrire une charte qui luttait contre effectivement le harcèlement et les violences sexuelles, donc avec vraiment des, tu vois, des engagements de ces lieux qui allaient encore une fois, hein, cette charte, elle est pas symbolique parce que, comme tu disais, c'est un peu plus. On a, je crois, on a 350 signataires et on a à peu près 90 lieux qui l'ont signé et qui affichent dans les coulisses et aussi au vu des spectateurs cette charte. Ça veut dire que c'est un engagement, évidemment, où quand il se passe quelque chose d'anormal, ce comédie club, en tout cas, est attaché à vous accompagner pour écouter, pour la prise en considération de la parole et des victimes ou des témoins. Et puis, il y avait autre chose aussi, c'était qu'on s'engageait notamment sur ce sujet de la parité. Parce qu'il y a une espèce d'énorme cliché qui fait que les femmes sont moins drôles que les hommes. Je l'entends, moi aussi. Tu sais quoi, il m'a habité quand j'ai commencé ce métier. Mais pourquoi ? Parce que je me rendais compte que je voyais moins de femmes drôles, mais parce que j'en voyais juste moins, en fait. Mmh. Et que moi, qui suis maintenant dans ce milieu-là, l'idée, c'est de se dire pourquoi on pense ça ? Mais c'est parce qu'en fait, il y a moins d'opportunités. Et l'idée, c'était de se dire, venez, on pousse un peu le curseur. Donc, c'est donner de la force aux femmes. Et pour ça, c'est accélérer leur visibilité, c'est impulser et créer des opportunités pour elles, c'est-à-dire arriver à une forme de parité.
Et cette charte, quand les comédie clubs la mettent en visuel, est-ce qu'il y a des formations sur les violences, les VSS, au sein de l'équipe pour pouvoir recevoir aussi la parole ?
Alors, c'est pour ça que le festival répondait à ça. Mais quand on a monté la charte, on savait qu'on n'était pas formé au VSS. Moi, je le suis en tant que chef d'entreprise parce qu'aujourd'hui, c'est une obligation. Je trouve ça magnifique. Et j'ai fait une collaboration avec une association qui s'appelle Derrière le Rideau, qui a été créée par Mélodie Molinaro, qui est devenue après, du coup, la co-créatrice du festival Plus Fort Ensemble. Mais tu vois, tout a un lien, tout a une histoire. Et j'ai dit, pour tous ceux qui n'étaient pas formés au VHSS, on met une adresse email, on met un compte Insta sur lequel on va vous aider à rediriger des victimes ou des témoins. Et dans cette association, il y a un psychologue, il y a une avocate, il y a une référente VHSS qui va vous accompagner là-dessus. Donc ça, c'était la première proposition. Je suis en train de réfléchir à quelque chose parce que ces métiers-là sont aussi des métiers qui sont un peu précaires. Il y a assez peu de cadres d'un point de vue légal, hein, tu vois, de droit au travail, et de se dire, bah voilà, si vous n'êtes pas forcément intermittent, si vous n'êtes pas forcément chef d'entreprise, mais vous êtes dans un espèce d'entre-deux, auto-entrepreneur, tout ça, on va aller, nous, chercher de l'argent public pour vous offrir ces formations VHSS, histoire que, collectivement, on puisse réfléchir à tout ça. Moi, le seul truc sur lequel je m'interroge, c'est quand on n'encourage pas la parité pour des raisons de méritocratie. C'est-à-dire, bah non, le stand-up, c'est de la performance, c'est comme un athlète de haut niveau. Je vois pas pourquoi tu serais, entre guillemets, favorisé de par ton genre. Alors moi, je suis d'accord, moi aussi, je crois à la méritocratie, tu vois. J'ai travaillé de manière acharnée, donc je sais ce que c'est l'effort. En revanche, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher un petit peu avant, puisque la méritocratie n'existe que par rapport à l'égalité des chances. Et de ne pas avoir cette égalité-là fait que tu seras toujours un peu à la traîne, tu seras toujours derrière et ton niveau ne montera jamais. Ça, c'est le seul truc que, intellectuellement, j'ai du mal à, tu vois, à accepter. Moi, j'ai un espèce de deuil maintenant, c'est presque too much, quoi, mais il n'y a pas une seule affiche de stand-up, une seule affiche de comédie club où d'un seul coup, tu vois, mon regard va être hyper exigeant sur le fait que bah, c'est trop blanc, c'est trop masculin, elles sont où les meufs, ils sont où les personnes racisées. On est quand même dans un univers qui nous permet justement d'avoir cette diversité culturelle qui est d'une richesse incroyable, surtout avec ce qui se passe partout et la stigmatisation des personnes racisées ou, tu vois, sur d'obédience religieuse. Enfin, tu vois, il y a tous ces sujets-là qui sont un peu lourds à porter. Et je trouve que le stand-up permet justement de désamorcer ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal que tu continues à me faire un line-up avec 7 mecs blancs, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Alors, il y a une réalité aussi. Encore une fois, je ne juge pas le travail des gens. Il y a une réalité. Peut-être que les gens n'étaient pas dispo. Peut-être que c'est compliqué. Mais moi, le seul truc où j'ai du mal à faire pousser la graine, c'est de se dire, est-ce qu'on peut avoir un regard un peu plus critique sur notre travail ? Est-ce qu'on pourrait penser un peu plus à ça ? Ça, j'ai pas l'impression que...
Ça peut encore germer...
C'est long, quoi. Okay. C'est long. Mmh. C'est long.
Ce qui est fou, parce que oui. dans le stand-up, ce qui est le plus connu, c'est Bien le Jamel Comedy Club, qui lui, au contraire, a mis en avant énormément de personnes racisées. Il y avait aussi pas mal de femmes.
Oui.
Et c'est dingue qu'on... Au contraire, ça vient de cette culture-là, ouais. c'est ça qui vient. Même aux États-Unis, c'est à la base, c'est des personnes racisées qui l'ont mis en avant.
Et une espèce de sous-culture, et je déteste ce terme, mais tu vois, cette sous-culture qui prend en considération toutes les diversités. Tu vois, par exemple, là, il y a aussi une grosse, en ce moment, communauté queer dans le stand qui fait énormément de bien par rapport à une liberté de ton, par rapport à tout ça. Et en fait, c'était, oui, tous les gens qui sont un peu oppressés, qui ne se sentent pas représentés aussi dans une culture un peu élitiste. On parlait du théâtre bourgeois. Tu vois, c'est un peu ça. Et bien là, j'ai l'impression que c'est parce que le stand-up, c'est un peu capitalisé.
Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas embourgeoisé? Donc, c'est redevenu un peu ce côté très blanc, masculin, qu'on voit un peu dans le théâtre classique, un peu cliché.
Ça, c'est...
C'est
mon ressenti, c'est ma vision des choses. Et c'est pour ça que je passe pour la relou. De toute façon, on est tous des relous hein, quand on dit que qu'il faut plus de femmes. Je passe pour la relou. À un moment donné, ça va me fatiguer. Je te cache pas que je pense que je vais me silencier aussi un peu à cause de ça. Et puis je me dis, écoute, il y a pas de souci.
Oui, à un moment, tu peux faire ce que tu veux avec tes outils à toi.
Oui.
Et pour continuer sur les VSS, tu as début mars, tu as organisé la première édition de Plus Fortes Ensemble. Un festival engagé contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle vivant. Et pendant cette édition, il y a eu des ateliers d'écriture, mais aussi des ateliers juridiques, des tables rondes.
Oui.
Est-ce que ce festival s'adressait plus à un public de professionnels ou amateurs ?
Amateurs et professionnels qui s'intéressent aux pratiques du spectacle vivant. Ça, c'est une évidence. Encore une fois, tu vois, sur ce volet VHSS, le premier truc qui a été conceptualisé dans ce festival, c'est la formation. On a développé des outils qui vont permettre aux gens de se sentir mieux formés et on va les accompagner. Donc, toi qui t'intéresses à ces questions-là, toi qui es dans une troupe d'impro et tu as envie un peu de t'armer, on a essayé de penser à des thématiques qui pourraient aller répondre à des questionnements. Donc, il y a eu des ateliers. Avec une coordinatrice d'intimité, par exemple. Super, tu vois, pour les metteurs en scène. Et on a eu une table ronde qui a réuni énormément de gens, notamment sur les directeurs de casting. Chaque jeune comédienne porte en elle une expérience. Enfin, il n'y a pas une seule comédienne avec qui je parle de ses premières expériences de casting qui, tu vois, n'a pas tout à fait compris le cadre légal dans lequel elle devait se sentir en sécurité. On a eu 3 directeurs de casting hyper investis là-dessus qui ont donné des bases en disant... Oui, effectivement, c'est suspect si on vient te faire passer un casting au 6e étage d'un immeuble qui n'est pas... Enfin, tu vois, donc remettre les bases, remettre les cadres. Et puis, encore une fois, prendre soin de la parole, quoi. Tu sais, le fameux « vous n'êtes pas folle », mais c'est vraiment ça. C'est normal. C'est normal que tu penses que c'est pas normal, puisque ça ne l'est pas. Et on va te redonner ces bases-là pour que... Ok, oui, ça, en fait, c'est une agression sexuelle. On va te dire ce que c'est. Légalement, on va te dire ce que tu as droit, ce que tu n'as pas le droit, comment tu peux éventuellement porter plainte ou modérer tes réseaux sociaux parce que tu te fais insulter parce que tu as fait une mauvaise blague. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça a été conceptualisé comme ça. Et puis à côté de ça, il y a la partie quand même culturelle, puisqu'il y a eu du théâtre immersif. Les comédiens étaient en train de naviguer avec le public, donc une partie aussi un peu improvisée. Et c'était, tu faisais... face à des scènes qui pouvaient poser problème, hop, t'avais une petite ellipse, hop, tu rentrais dans la tête d'un comédien. Enfin, voilà, ça, c'était super. Et puis, tous les spectacles de la nouvelle scène aussi, labellisés avec un petit trigger warning en disant, oui, ça parle de ça. Oui, dans ce spectacle, il y a une chanson sur les féminicides. Oui, sur ce spectacle, tu vois. Et on avait réussi à créer et une programmation artistique et une programmation purement, on va dire...
D'outils d'aide. Ouais.
Exactement, d'outils d'aide et de professionnels. Petit atelier de self-défense. Dimanche matin, ça fait toujours plaisir. Tu vois. Il y a eu plein de choses. Et puis, des témoignages, des tables rondes. C'était un super beau moment de cohésion. Quoi.
Est-ce qu'il y a une restitution après en podcast ou des écoutes?
Tout à fait.
Oui.
Ouais, toutes les tables rondes, on les a fait en podcast. Donc, il y en a 8. Donc ça va être mis en ligne très prochainement. Puis essayer de vous mettre aussi toutes des ressources. Donc de vous accompagner aussi si vous avez envie d'aller plus loin dans les réflexions, des ressources littéraires.
On le retrouvera sur Instagram ou sur le site de la Nouvelle Scène?
Oui, sur l'Instagram du Festival Plus Fortes Ensemble.
Et je suppose qu'il y aura une deuxième édition?
Écoute, oui. Alors, c'est ce que je disais, il n'y a pas normalement à vocation que ce festival dure 10 ans, parce que je me dis que dans 10 ans, on aura résolu tous les problèmes et qu'il n'y aura plus de violence dans le monde. Évidemment, c'est très utopique. On va essayer de faire une deuxième édition, parce qu'en fait, on a répondu à une demande, à une envie. Donc, on va essayer de réfléchir à ça, parce que je trouve que le prisme de l'art et de la création permet beaucoup, beaucoup de choses. Je pense juste à ça parce que, notamment sur les violences, tu vois, là, il y a une série qui est sortie qui s'appelle Adolescent, dont tout le monde parle. Et c'est comment le prisme d'une série sur Netflix est en train de remuer le débat autour de la violence adolescente, la masculinité toxique. Et je trouve ça trop chouette comment le prisme de la création peut te choquer un peu, rentrer dans de l'intime, te faire penser à ça, te faire réfléchir à ça. C'est ça, en fait, qu'on a envie de faire, quoi.
On va passer juste à la dernière question.
Oui, vas-y.
Que je pose à tout le monde. Quel conseil qui ne t'a pas aidé dans ton parcours professionnel ? Quelque chose qu'on t'a dit et tu t'es retrouvée à dire par la suite, mais c'était vraiment une très mauvaise idée pour toi. Peut-être que c'est un bon conseil pour quelqu'un d'autre.
Alors, un mauvais conseil qu'on m'aurait donné pendant mon parcours universitaire, parce que tu sais que la sociologie, on est vachement stigmatisé, hein, c'est vraiment les étudiants qui branlent rien. Et le fait que j'ai voulu travailler dans la culture et que j'ai commencé en faisant énormément de bénévolat, c'est tous les conseils autour de la sécurité de l'emploi. Tu vois, tous ces conseils-là en disant « mais tu devrais te poser, tu devrais trouver un vrai travail, tu devrais trouver un vrai contrat je comprends. Alors parfois, effectivement, pardon, mais c'est vrai que je pense peut-être à mon père qui a été très pragmatique à l'époque et je pense qu'il s'inquiétait pour mon avenir professionnel. Mais toutes ces réflexions autour de la sécurité de l'emploi, de te renvoyer au fait que effectivement la culture, il y a malheureusement, est un peu stigmatisée parce qu'on pense toujours qu'il y a une forme de précarité dans ces métiers-là. Je l'entends, c'est une réalité. Mais il y a aussi plein d'opportunités qui sont absolument mais folles et enrichissantes. Voilà, donc c'est plutôt quand on m'a fait culpabiliser sur mes premières années un peu d'errance professionnelle, où je multipliais les stages, où je multipliais les expériences de bénévolat, où je créais des petites choses qui faisaient pas forcément avancer le truc et que je perdais de l'énergie et de l'argent, mais c'était trop chouette en fait. J'étais juste en train de nourrir mon parcours d'entrepreneuse. J'étais juste en train de nourrir tout ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens à l'aise dans mon métier, quoi. Donc, le rapport à une forme de rentabilité, tu vois, ça, je me le pose maintenant, tu vois, effort, rentabilité, oui, parce que j'ai plus autant d'énergie qu'avant, malheureusement. C'est peut-être le seul truc là qui est en train de me nuire un peu. Mais voilà, tous ces trucs un peu pragmatiques.
Apprendre avec des pincettes en fonction de vous-même.
Ah ouais, apprendre un peu avec des pincettes parce que n'importe quelle expérience, pour moi, est une petite pierre à l'édifice, quoi.
Eh bien, écoute, merci à toi de nous avoir parlé de ton métier de directrice artistique et ton engagement sur les VHS, SS. Tu restes avec nous pour la deuxième partie. On passe à la deuxième partie de l'émission, les Magritte du Molière. Le concept, c'est que tu attribues des prix aux spectacles présents à la Nouvelle Scène pour vous donner envie d'aller les voir. Donc tu peux attribuer des prix comme le spectacle le plus touchant, le spectacle le plus chantant, le spectacle où on parle d'un pigeon dans une poubelle. Ça peut être ce que tu veux. Le prix peut avoir un nom aussi très très long, comme tu veux.
D'accord.
On va se laisser le temps d'une petite pause musicale pour que tu aies le temps d'écrire tes réponses et on se retrouve juste après.
Oh,
Vous venez d'écouter Back on 74 de The Jungle sur Radio Campus Paris. Et on revient pour le Magritte des Molières. Donc, Jesse Vara a attribué des prix au spectacle présent à la Nouvelle Scène. Pour le spectacle Verino, dans les toutes premières, le prix attribué est...
Le prix du spectacle le plus près que j'ai jamais vu en rodage. Voilà, parce que c'était une opportunité pour nous que Verino vienne tester. Donc, tu vois, quand les artistes sont en rodage, c'est qu'ils viennent tester les... Voilà.
Leur spectacle.
Voilà. Normalement, Verino est arrivé et m'a dit, bon, écoute, j'ai à peu près 20-30% du spectacle qui est bon pour l'instant. Voilà, on se laisse 18 dates pour faire en sorte. Et à la première, je me suis dit, mais le spectacle est meilleur que plein d'autres spectacles que j'ai vus et qui étaient déjà prêts. Donc oui, le prix du spectacle le plus près pour un rodage.
Pour le spectacle Camille Giry dans Ça va bien se passer, le prix attribué est...
Le prix du meilleur spectacle qui va mettre fin au patriarcat.
Pour le spectacle Samuel Certenet dans Garçon, le prix attribué est...
Le prix du meilleur spectacle qui va déconstruire la masculinité toxique.
Pour le spectacle Félix Junier dans Sa marche, le prix attribué est...
Le prix du meilleur spectacle pour relativiser, parce que avec Félix, rien n'est grave.
Pour le spectacle Louis Catelat dans Arecibo, le prix attribué est...
Le prix du spectacle qui ira bientôt à l'Olympia.
Oh. Pour le spectacle Time, le show d'improvisation explosif, le prix attribué est...
Le prix du spectacle qui te laisse penser que tu peux sauver le monde.
Pour le spectacle Le Cabaret Burlesque, le prix attribué est...
Le prix du spectacle le plus sexy et libérateur.
Et je l'ai déjà vu, je vous le conseille, ça fait en plus 10 ans que tu l'as maintenant.
Ah ouais, ça c'est vraiment ma troupe un peu chouchou, c'est notre rendez-vous un peu nocturne, tu vois, c'est les vendredis, samedis, 22h30. Et t'as l'impression d'être dans une ambiance burlesque, sexy, tu vois, d'être dans une espèce de boudoir un peu genre... période un peu prohibition, et puis il y a de l'humour, et puis ça se dessape, c'est vraiment du strip, hein. C'est du striptease,
mais
sexy
drôle
et décalé,
ouais.
Voilà, hyper libérateur parce que tu y vois tous les corps, et il y a toujours un petit storytell sur chaque numéro, voilà, c'est vraiment un rendez-vous que j'adore, et puis chaque semaine c'est différent, parce que chaque semaine c'est des performeurs aussi différents, quoi.
Et que je vous invite à voir, j'ai beaucoup aimé. Merci à toi de t'être confié au micro de Blague à part. On retrouve toute la programmation du théâtre de La Nouvelle Scène sur ton site, mais aussi sur Instagram @lanouvellescene. Merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté Blague à part. Et malheureusement, c'est la fin, mais on se retrouve dans deux semaines, toujours à 18h sur le 93.9.